Bonjour et bienvenue, nous sommes le samedi 11 mai 2007 et il est exactement midi.
Éphémère est une radio libre, sans pub et indépendante, fondée à Toulouse en 1981. Notre mission, vous faire partager nos passions, nos coups de cœur et ce qui va vraiment faire bouger votre monde.
Éphémère s'invite dans vos oreilles aujourd'hui avec, pour commencer... Vas-y.
Et bien maintenant...
Le supplément week-end avec l'actu BD, ciné, DVD...
Et pas TV, suivi de...
Poupa Christopher à 15h, Zama Farai, c'est Mix du Reggae.
Et ensuite...
À 17h, Big Bang, 18h, Vie d'Ordure, 19h, La Happy World, 20h, La Cetero Experience, 21h30, 9 Love. Bonjour Thomas.
Salut Xavier.
C'est le supplément week-end.
Eh, tout à fait.
Ouais, une émission où théoriquement on était censé avoir des invités pour un événement qui aura lieu tout à l'heure à la médiathèque José Cabanis, une table ronde autour des mangas, et il y en a un qui arrive en train et l'autre on ne sait pas où il est. Donc ça va sûrement se débloquer en cours d'émission, mais on a l'habitude, on est la poubelle des radios.
De toute façon, c'est pas grave, on avait la matière pour tenir.
Oui, c'est ça. Et puis tant qu'il y est, hein, c'est pas parce qu'on reste dans un régime franchement à droite que la radio de gauche va changer. Non, pas du tout. À gauche du tunnel, bien sûr. Non, tu crois ? N'oubliez pas de voter ce soir, mais vous pourrez pas voter pour eux.
La France, pays d'assister, je les supporte de moins en moins. À commencer par mon voisin. Ah mais c'est sympa ce qui passe à la radio. Pourquoi je n'aimais pas Sartou, c'était idiot. Pourquoi toujours aider les gens? Mon chien préféré c'est le berger allemand. La vérité me frappe enfin maintenant. C'est chacun pour soi, Dieu choisit les méritants. Et tant pis s'il faut que je mette des mocassins. Ça me gêne pas si ma fille doit apprendre le clavecin ou le hautbois. Et puis merde, je vote à droite juste pour savoir comment ça faire. Et puis merde, je vote à droite, je serai sûrement riche tout de suite après. Après je vous mépriserai, ça me rendait malade. La fête de l'humain, au puits du fou, là je me sentais chez moi. Et s'il fallait tout confesser, c'est seulement à Vulcania que j'ai pris mon pied. Je pourrais m'acheter un petit 4x4, même un gros. On va pas me demander d'être écolo. Je reprends mes disques de Jean Ferrat, mais qu'il est drôle ce Laurent Gérard. Et tant pis s'il faut que je lise le Figaro dans le métro. Ça me gêne pas. Je dois être le seul à trio qu'applaudit. Et puis merde, je vote à droite. Fini d'être culpabilisé. Fini le partage, vive le mérite. Ceux qui foutent rien pas, on les pique. Ça boostera les statistiques. Chérie, de ça suffit pas, c'est pas assez. On va refaire 5 enfants, revendre notre stérilet. Tu vas quitter ton travail pour mieux tenir la maison. Et toi ma fille, plus jamais en pantalon. Le chômage va reculer sans fléchir. Mon chien va sûrement se mettre à m'obéir. Les poubelles ne seront plus renversées. Les mauvais éboueurs ne seront plus régularisés. Et tant pis s'il faut que je passe 15 heures par jour au bureau. Ça me gêne pas si on doit supprimer les chômeurs en fin de droit. Et puis merde, je vote à droite. Les improductifs, pas de chance. Je suis fier, je vote à droite. Marre d'être taxé à outrance. Comme Florent Pagny, quitter la France.
Ça se manque pas, ça. En général, on se fait une soirée barbecue, on sort l'écran, on sort les bières, et puis voilà, c'est aussi kitsch et sportif que le Super Bowl. C'est évidemment le UEFA Euro Song Contest. Donc c'est le concours Eurovision de la chanson, voilà, de l'Union Européenne des Radiodiffuseurs.
Et alors ce sera commenté par Tex et Julien Depers.
Oui, parce que je rappelle qu'il y a eu un pari complètement stupide l'an dernier qui a été fait par Michel Durucker, qui s'est engagé en public et plusieurs fois qui recevrait les gagnants pour faire un tapis rouge spécial, et que c'était... l'ordi, pas de bol pour lui. Ah bah, il y a un des invités qui est déjà présent, donc ça tombe bien. Donc, l'ordi, ouais, ça aurait un peu bougé quand même.
Alors, moi, je voudrais publier un démenti par rapport à la semaine dernière, puisque tu as prétendu que j'étais reparti chez moi pour aller porter du linge sale à ma mère. Enfin, non, c'était vraiment pour voter.
Uniquement pour voter.
Et donc, je m'offusque de ces fins journalistiques.
Tu te portes en faux. Tu te portes en faux et tu es dit que c'est des médisances et c'est un travail journalistique digne de Libération, qui se fait actuellement étrier.
Oui,
d'ailleurs.
Mais ça ne me surprend pas de ta part, Xavier.
Ah bah non, bien sûr, bien sûr. D'un autre côté, on a
une news
absolument officielle, puisque ça y est, c'est officiel et validé par le Conseil constitutionnel, puisque le prochain bouquin de Philippe Cohen, Richard Malka et de Riz s'appellera bien Sarko Ier et sortira donc chez Vent d'Ouest mardi prochain normalement, et donc sera disponible et racontera en fait en 48 pages, c'est la suite de la face cachée de Nicolas Sarkozy, racontera en fait les péripéties de cette campagne présidentielle, comment on fait des coups bas pour avoir les 500 signatures, comment on fait des coups bas à son concubin en le menaçant, un, de se marier avec lui, deux, qu'il ne voit plus les enfants, si, trois, il soutient n'importe qui d'autre que lui dans le parti, et plein d'autres vacheries, comment en fait le Front National a réussi à avoir ses voix et tout. Bref, ce sera un excellent complément vis-à-vis documentaire de Serge Moati qui a été diffusé donc lundi dernier sur France 3.
Il n'y a pas eu que lui, il y a eu un envoyé spécial autour de ça aussi.
Ouais, mais Moati, c'était quand même assez drôle quand même. Hein. Je veux pas dire, mais le coup du bras d'honneur face au parti, face au camp adverse, ouais. Filmé 24 heures avant, ça c'était joli et beau. Bon, on va laisser le temps à nos invités pour s'installer et on va commencer un petit peu l'intro. Et donc tout à l'heure, il y a une table ronde manga qui a lieu à la médiathèque José Cabanis à partir de 15h, donc à l'auditorium avec Sébastien Langevin qui vient d'arriver. Bonjour Sébastien.
Bonjour.
Voilà, on va se mettre à peu près au niveau. Et Patrick Abri qui commence à être un habitué de l'émission.
Bonjour. Ouais, bonjour.
Bonjour Patrick. Sébastien Langevin qui donc est un ancien de Animeland, ex-Virus Manga, a coécrit d'ailleurs un guide aux essentiels Milan. Qui sur le manga lui-même avec Stéphane Ferrand, qui est une très très bonne introduction, et on en parlera tout à l'heure. Donc il est question d'une revue, d'un guide sur les mangas qui devrait bientôt sortir, d'après ce que j'ai compris. Patrick Abri, on va pas y revenir dessus, c'est un géant de la bande dessinée chinoise, puisque jusqu'ici il était seul, maintenant on peut dire qu'il n'est plus seul, puisque Kana Siemi aussi et Casterman, il me semble.
C'est, ouais, c'est très bien.
Oui.
Je suis bien content d'ailleurs, parce que j'en avais marre d'être un peu tout seul, et le fait qu'il y ait des gros qui viennent derrière moi prouve qu'on a fait un bon choix, et puis aussi ça va permettre peut-être de donner une meilleure vision globale de cette bande dessinée chinoise et d'occuper une place sur les étals des libraires, chose qu'elle n'a pas aujourd'hui.
D'accord, donc attention, ça c'est le point de vue de l'éditeur, vous l'aurez compris, et qui est forcément biaisé, ça vous en doutez.
Mais non.
C'est le supplément week-end, on va se mettre un peu en place avec aujourd'hui Pat du sport, de la bande dessinée néanmoins, et deux films qui sortent, dont un qui est dans le sujet, donc ça tombe très bien. quittez pas là. En fait, je me suis fait prendre de court par un disque, voilà, puisqu'en fait, on est en train de prendre tout le monde, de mettre tout le monde en place. Et pas de soucis, voilà, on reprend. On va peut-être parler rapidement avec Sébastien de son parcours, puisque celui de Patrick, on l'a déjà vu plus d'une fois. Sébastien, tu as commencé dans Animeland en quelle année ?
Animeland.
Hein ?
D'abord, j'ai pas commencé à Animeland. Hein. J'ai commencé à Animeland avec, en 2003, je crois, 2002 ou 2003.
Qui à l'époque était déjà, était déjà un magazine fortement installé. Ouais, bien sûr, c'est c'était plus les années fanzines de 91.
C'est un professionnel depuis plus de 10 ans maintenant. Auparavant, j'avais déjà. J'ai toujours travaillé dans la critique bande dessinée. C'était avec Bashi Bouzouk au départ.
Oui, qui a été, qui n'est pas resté très longtemps. Rien non, à voir avec l'émission radio de Sud Radio de Louis Benedi où il parle aussi de BD. Hein.
Et non, c'est un magazine, qui a eu 8 numéros dans les dans les années 2000.
Et qui a été monté par une équipe spécialisée justement dans les magazines la bande dessinée, qui s'est plusieurs fois relancée hein, d'ailleurs.
Bon, non, il y a eu un relancement en fait, il y a eu une passation de pouvoir à un moment, donc j'ai été rédacteur en chef adjoint du magazine. J'ai participé au lancement du magazine Bodoy également, enfin j'étais au tout début de Bodoy. Donc là, pas du tout sur le manga, et le manga est arrivé en France un petit peu fermement, et on a lancé, donc je travaillais pour Animeland, et je suis allé voir avec Stéphane Ferrand qui était rédacteur en chef du site animeland.com. On allait voir les gens d'Animeland et on leur a dit c'est le moment de faire un magazine sur la bande dessinée japonaise
qui était Virus Manga.
Voilà. Virus Manga, ça a été 2 ans spécialisé vraiment sur le manga bande dessinée japonaise et où on a essayé de faire une ouverture également, montrer que la bande dessinée japonaise, elle était liée aussi aux autres bandes dessinées, que c'était une bande dessinée comme les autres, et on a essayé un petit peu de faire des ponts, quoi.
On va essayer d'éviter de poser trop de questions en rapport avec ce dont on va parler tout à l'heure dans la conférence, même si ça me démange un peu. C'est une question que je vais peut-être reposer tout à l'heure, c'est est-ce qu'il n'y a pas finalement trop de magazines critiques sur la bande dessinée et pas assez de magazines sur la pré-publication ? Parce que l'Enfance de Troyes a disparu, tout ce qui reste en pré-publication c'est Spirou.
Oui, mais qu'est-ce qu'il y a en critique de bande dessinée ?
Ah d'accord, il n'y en a carrément aucun. Ouais, ouais. C'est vrai qu'il y a Bodoy qui coule.
Non, Bodoy ne coule pas. Pardon. Non, Bodoy. Bodoy est en train de changer d'équipe de rédaction en chef. Donc je crois que pour eux, ça tourne à peu près.
Ouais, Vidal, après, est-ce que Bodoy... Vidal, le fondateur,
est parti. Mais maintenant, il y a une jeune équipe avec la secrétaire de rédaction qui est maintenant rédactrice en chef. Bon, mais Bodoy n'est pas un magazine critique. Hein. Bodoy, il y a 30 critiques, on va dire, par mois, alors qu'il sort plusieurs centaines de bandes dessinées par mois. Non, il n'y a pas de magazine critique, que ce soit sur le manga ou la bande dessinée, ça existe très peu. Bon, c'est un problème en soi, d'après moi. Après, en magazine de prépublication, c'est un autre débat, c'est un autre très très vaste débat. Je pense que ça peut être ça peut devenir un énorme problème pour les nouvelles générations d'auteurs de franco-belges dans les quelques années à venir par rapport notamment au manga et ou aux bandes dessinées asiatiques, c'est-à-dire qu'il y a un problème d'émergence pour faire reconnaître, pour essayer des nouvelles choses.
De support de visibilité, quoi.
Tout à fait, ouais. Voilà. Et la bande dessinée, vu qu'il n'y a plus de magazine de prépublication, la bande dessinée franco-belge, elle s'est coupée d'un public populaire. On le voit très bien, le manga s'engouffrait dedans. Et voilà, et le lectorat de bande dessinée franco-belge, il est vieillissant un petit peu, et on va pas dire qu'il meurt petit à petit, mais quand même.
Alors justement, puisque toi tu as fait partie de l'organisation, il me semble, du festival d'Angoulême.
Oui.
Est-ce que finalement, justement, il n'y a pas une espèce de, je vais pas utiliser les mots scientifiques de suite, mais vraiment quelque chose qui n'est pas miscible, une vraie dichotomie entre d'un côté la BD franco-belge et le manga, et que ils aient, ça manque un peu de côté populaire, du côté travesti complètement fou du manga dans cette organisation actuellement.
Alors, moi, mon combat, c'est de dire le manga. Les bandes dessinées asiatiques, c'est avant tout de la bande dessinée. Moi, je plaide pour la bande dessinée. Je suis en ce moment spécialisé sur le manga, mais c'est pas du tout quelque chose de spécifique. J'aime pas que le manga. Et pour moi, avant tout, le manga, c'est de la bande dessinée. C'est ce que j'essaie de faire comprendre sur tous les tons. Ensuite, sur l'évolution actuelle, effectivement, pour ce qui est spécifiquement du festival d'Angoulême, petit à petit, le festival essaie de s'intéresser au public de lecteurs de manga. On voit que pour l'instant, effectivement, le public de lecteurs de manga, il est très différent du lectorat de franco-belge.
Oui, c'est clair.
Néanmoins, il faut peut-être que le festival d'Angoulême, de son côté, il évolue. Depuis 3 ans maintenant, il y a un espace manga avec une programmation, avec des choses bien spécifiquement manga. En même temps, le but d'Angoulême, c'est pas de faire des cosplays, c'est pas obligatoirement de faire Japan Expo.
Tu viens de faire un énorme déçu là, pour de la photo là-dessus.
Mais moi, c'est pour la photo, mais moi je suis pas fan des cosplays, attention.
Non, mais je pense que la bande dessinée, il y a des fans de manga qui se sont fédérés autour d'événements comme les cosplays, autour de Japan Expo et tout ça, mais ça existe.
Cartooniste qui existe depuis 15 ans maintenant.
Ouais, avec des interruptions à Toulon. Ouais. Mais en même temps, c'est pas la vocation du festival d'Angoulême. C'est un festival international de la bande dessinée. Il a pas pour vocation à faire la même chose, à servir les fans obligatoirement de manga, mais au contraire, d'ouvrir à la fois les fans de manga à la bande dessinée, à d'autres bandes dessinées, et de faire venir les lecteurs de franco-belge, de comics, etc., sur le manga, et de leur dire, regardez cette bande dessinée, effectivement, elle est en noir et blanc, effectivement, elle est en 38 volumes, effectivement, elle se lit à l'envers. Néanmoins, c'est de la bande dessinée, si vous prenez le temps de la regarder, si vous prenez le temps de la lire, parce que c'est un livre, évidemment, vous verrez que c'est de la bande dessinée, et parfois même, c'est de la très bonne bande dessinée.
Vous avez vu, là, j'ai commencé à bien le chauffer, ça va faire un débat qui va péter. Venez tout à l'heure.
Moi, j'interviens pas, parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Je suis pas d'accord sur tout ce qu'il dit, mais j'ai beaucoup de choses à dire aussi. Donc. On en parlera tout à l'heure.
Ah, mais tant mieux, si on n'est pas d'accord, c'est de là que...
C'est le jeu démocratique, comme on dit. Thomas, tu avais une question.
Pour rebondir à ce qu'il disait tout à l'heure, c'est que on voit vraiment le cloisonnement en plus à Angoulême entre les amateurs de comics, de manga, de BD européennes.
Le cloisonnement, il est partout pour moi. Il est vraiment très très fort, jusque dans les librairies, parce que ça commence par là.
Ouais. Parce que y a un truc qui nous avait frappé, c'était qu'on avait assisté il y a 2 ans au cosplay Angoulême, et il y avait une question, enfin on faisait défiler les candidats pour gagner une adaptation, enfin un abonnement à des mangas, et c'était un public essentiellement amateur de mangas, et la question qui tue c'était citez-nous des œuvres de bande dessinée franco-belge, et à chaque fois il fallait passer
et sortir et là, un titre qui n'a pas été cité.
Voilà.
Et là, on a beaucoup ri.
À part Spirou, Lucky Luke.
c'est tout à fait vrai.
C'est clair qu'il y a, le lectorat de manga, pour l'instant, il ne se tourne pas forcément vers la bande dessinée. En même temps, il va en librairie. Je sais que les libraires disent, c'est bien, on voit de nouveau des jeunes en librairie, parce que ça faisait un petit moment qu'on voyait pas d'ados, qu'on voyait pas de jeunes en librairie de spécialisés BD, donc ils reviennent. Peut-être que en allant au fond au rayon manga qui est bien protégé en général, ils pourront à un moment choper quelques bandes dessinées. Pour moi, ça me semble évident, pas tous évidemment, mais ça, là n'est pas obligatoirement le but non plus.
Le projet sur lequel tu es actuellement engagé est en rapport avec l'association des libraires de bandes dessinées, qui ne regroupe pas l'ensemble des librairies spécialisées BD, mais une très très grande partie, dont à Toulouse, Arcade, Atmosphère et Album. Ils éditent une revue qui s'appelle Canal BD, et donc, à ce qui paraît, il y aurait un spin-off qui va se faire, une autre revue autour de ce bimestriel.
Un petit frère à Canal BD Manga, Canal BD, ça va s'appeler Canal BD Manga, donc ça va être exactement le même principe que Canal BD. C'est effectivement, ce sera à partir du mois de juillet, un magazine gratuit, tout comme Canal BD, à l'attention effectivement des lecteurs de manga fait par les par moi en tant que rédacteur en chef, mais avec l'influence évidemment de du réseau de l'association des libraires de bande dessinée. Donc
oui, parce que c'est vrai que dans Canal BD il y a pas mal de libraires qui écrivent, qui font des chroniques.
Là l'idée va être la même chose, et d'être encore plus ça va me permettre pour à moi d'être plus proche des lecteurs aussi, parce que quand je voyais sur les virus manga on n'était pas forcément proche des lecteurs. Là, avec le.
Oui, c'est vrai que le virus manga avait l'esprit d'une écriture critique, et que c'était peut-être un peu débranché par rapport au lecteur mainstream.
Ah, mais on l'a fait en connaissance de cause avec Stéphane Ferrand. On avait envie de parler de manga autrement, et pas en parler forcément pour le cœur de cible qui se situerait plutôt vers les 10-15 ans. Et nous, on a fait plutôt 15-30, on va dire, essayer de parler de bande dessinée avant tout. On l'a fait en connaissance de cause, on s'est planté.
Bon, vous avez parlé de Chevalier du Zodiac, pour info ?
Oui, bien sûr.
Ah bon, comment ? Ouais. D'accord, Thomas, je retire ce que j'allais dire.
On a parlé de Saint Seiya, on a parlé de Saint Seiya.
À 35 ans, il en est encore fan.
Saint Seiya, parce que c'était la nouveauté, surtout. On avait fait un gros papier, je crois, sur Saint Seiya à l'époque. Donc voilà, là, ça ne sera pas du tout le même objectif. Ce ne sera pas un magazine critique, parce que c'est un magazine qui est gratuit et qui est distribué donc dans les librairies. Le but du jeu, c'est pas de faire un magazine critique comme l'était le virus manga. En revanche, c'est de parler, de faire ressortir un petit peu quelques titres dans la masse de sorties manga et BD asiatique, parce qu'on va aussi parler de BD asiatique en général dans ce magazine.
Patrick, est-ce que toi, cela va t'aider peut-être à rentrer dans le réseau de librairies s'il n'est pas encore conquis ?
Certainement, ce que je disais tout à l'heure sous forme de boutade, c'est que la bande dessinée chinoise en tant que telle, et moi je défends non pas une vraie identité de la bande dessinée chinoise parce qu'on a du mal à la caractériser, mais au moins j'essaie de mettre en valeur ces différences par rapport au manga, puisqu'il y en a effectivement qui sont flagrantes. L'album que j'ai amené tout à l'heure on est tout à fait le reflet. Moi effectivement ça va aider à avoir un peu plus de visibilité et à la comprendre un peu mieux, à l'apprécier, parce que je pense que par certains côtés elle peut toucher un public. Aujourd'hui elle a la possibilité de toucher aussi bien un public qui est fan de manga qu'un public qui est fan de franco-belge, et toucher aussi d'autres publics, parce qu'on l'artbook que j'ai amené tout à l'heure, c'est vraiment autre chose encore. Ça veut toucher des gens qui aiment les illustrations, qui ne sont pas nécessairement des fans de BD. Donc on a vraiment un grand panel. Et le fait qu'il y ait des revues qui en parlent un peu plus et qui élargissent maintenant le panorama, parce que c'est en train de se faire dans Animeland et puis dans Coyote, par exemple, ces deux derniers numéros, ils parlent abondamment de la bande dessinée chinoise de Xiaopan. Et effectivement, on commence maintenant à en parler, on commence à avoir une vraie place. Bon, moi, je suis sûr que ça va mieux. J'espère que le projet verra le jour, parce que moi, j'ai des informations toutes récentes, puisque je connais bien Michel Clerc, qui est un ami de longue date, qui me dit qu'aujourd'hui, il a du mal à boucler son budget parce qu'il n'a pas assez d'annonceurs pour faire paraître le canal BD Manga. Donc, j'espère qu'il va arriver à trouver tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire paraître.
Normalement, c'est bon.
Bah, écoute,
les infos de la semaine, là, normalement. C'est...
Bah, c'est tant mieux, parce que moi, j'ai mangé avec lui mercredi et il était encore inquiet. Donc,
voilà. En tout cas, moi, on va dire
bosser.
On a des infos. C'est sûr qu'il faut bosser, mais je veux dire, lui, il avait encore des soucis de rentabilité globale.
Oui, bien sûr.
Mais j'espère bien que ça va se faire.
C'est les infos toutes fraîches, donc entre le fromage et le dessert.
Entre la poire et le fromage, ouais, tout à fait. Ouais.
D'un autre côté, il y a des sorties bande dessinée. Il y en a un catalogue absolument monstrueux, vous allez voir. On a dû se limiter. Je suis désolé, j'avais prévu de chroniquer deux bouquins à toi. J'avais pu en faire qu'un seul. Parce qu'il fallait aussi préparer tout à l'heure. On verra ça en cours de journée. Le débat, si vous pouvez pas venir tout à l'heure, c'est à 15h, c'est gratuit. Hein. Normalement, devrait être enregistré et on vous le proposera en podcast sur le site de l'émission où vous pouvez réécouter l'intégralité des suppléments week-end en tapant dans Google supplément week-end, radio éphémère ou MP3 ou podcast ou ce que vous voulez. Et vous pouvez les télécharger, les écouter dans votre baladeur, dans l'autoradio, au feu rouge, ce que vous voulez, voir en lisant le bouquin.
Il va falloir qu'on chante cet après-midi pour le rendre un peu plus agréable, le débat.
Ah, si vous voulez.
Hein, dans ces cas-là.
Oh, déjà, ils s'inquiètent quand ils ont vu mon intro, donc je crois qu'on va les calmer un peu. 12h25, ça discute évidemment hors antenne, mais malheureusement on doit terminer l'émission à 13h pile, donc aujourd'hui on va pas pouvoir franchement déborder. Donc on va commencer les sorties bande dessinée avec une sortie chez Paquet. Paquet qui fête ses 10 ans d'édition avec une collection qui s'appelle T-Cap, une collection à 5€ en album 48 pages ou 42 pages, cartonné couleur, format à peu près du puits, mais moitié prix. Et là, ils ont fait un autre pari, encore plus audacieux, une série BD répartie théoriquement sur plusieurs saisons annuelles, découpée en 12 épisodes par saison, chacune diffusée mensuellement. Et chaque opus est vendu en librairie à 1€, en petit format souple, noir et blanc. Ça s'appelle Cité 14, donc la première saison commence par ce premier tome, Êtes-vous anarchiste, et scénarisé par Pierre Gabus et dessiné par Romuald Rottiman. Cité 14, c'est la porte d'entrée vers un nouveau continent d'espoir où tous les désespérés de la ville, ceux qui fuient la misère, les guerres, les impôts, leur propre pays, embarquent par bateau pour cette ville synonyme de renouveau, d'opportunité, de changement. Après avoir économisé dur pendant 7 ans, des réfugiés passent devant les inspecteurs de l'immigration, souhaitent vivre en travaillant comme maçons et peut-être y faire fortune. Du moins, c'est le discours qu'ils tiennent devant les officiels. Et peut-être que cet immigré, parmi les centaines qui débarquent chaque jour, a quelque chose à se reprocher. La question « Êtes-vous anarchiste ?» posée par les douaniers entraîne-t-elle une réponse vraiment franche et sincère ? Après tout, tous ceux qui sont déjà citoyens de cette ville ne sont pas forcément tous des enfants de cœur. Cité 14, c'est une ville qui pourrait tant ressembler à la New York d'avant la Première Guerre mondiale, avec ses nouveaux arrivants qui espèrent tant faire partie d'un rêve américain. Si justement les protagonistes de cette histoire n'étaient renards, castors, éléphants. La suite de l'aventure est prometteuse, et avec un tel découpage, les auteurs se lancent à la fois un défi audacieux par la pagination, mais aussi une certaine rythmique d'écriture, comme justement dans les séries télé. Cité 14 saison 1, premier tome s'appelle Êtes-vous anarchiste, de Pierre Gabus et Romuald Rottiman chez Paquet Éditions. A noter qu'il y a une version gratuite qui est disponible chez les libraires, qui ne reprend que la moitié du premier tome et qui est publiée sur un papier d'un peu plus mauvaise qualité. Fait remarquer assez malicieusement qu'il n'y a pas de code barre, hein, donc les libraires vont rigoler, effectivement.
C'est pas vrai, il est caché.
Il est caché à l'intérieur, d'accord.
Non, il est caché en quatrième de couve, mais vraiment. Ouh,
vert sur
trouvé Charlie.
Noir sur vert sombre, là.
C'est ça, dans les immeubles.
Et en plus, sur une couverture brillante, là, les Telson, ils vont pas franchement le lire, hein, je peux vous le dire. C'est un monument que l'on attendait depuis un bail. 4, point d'interrogation. Denki Bilal vient de sortir chez Casterman. 4, c'est la nouvelle trilogie Denki Bilal. L'histoire de trois personnages principaux, Nike, Leila et Amir, commence à Sarajevo en pleine guerre d'élitement de la Yougoslavie en 92. Trois bébés à peine nés dans un hôpital au milieu des bombes et des tirs de snipers. C'est ce dont se souvient Nike, un homme à la mémoire absolue. 2025, ces trois personnages deviennent le jouet du mal absolu. Dans le sommeil du monstre, Optus Warhol fut le fondateur d'une secte assassine spécialisée dans la manipulation, l'attentat et le clonage de personnalités. Dans 32 décembre et rendez-vous à Paris, il s'était reconverti en Hollow War, artiste du mal suprême, orchestrant des attentats à la nature des choses comme installation artistique pop, sur lesquelles s'extasient des critiques, pourtant en totale connaissance du passif de l'individu. Et dans ce dernier opus, Subto Raulo, dans un effort ultime de morphisme, tente de reconstruire son identité avec un visage devenu informe. Pendant ce temps-là, un clone de Leila a détourné la mission vers Mars de son objectif pour devenir un gigantesque lupanar, alors qu'Amir est dans les troubles de personnalité de sa femme Sacha. La question 4 est effectivement posée. À l'origine, Akibila avait prévu qu'une trilogie avec chaque album centré sur un des personnages, Nike, Leila et Amir. Mais suite à un changement d'éditeur assez houleux, il a quitté les Humano, pas en très bon terme, il a réduit la pagination de son troisième volet pour en faire deux albums. Alors qui est ce quatrième personnage central ? Optus, Warhol, grand méchant de l'histoire qui n'arrête pas de changer de personnalité, de nom et de forme ? Ou la femme d'Amir, une Sacha reformatée par l'incarnation du mal suprême précité ? À la lecture, on sent aussi que l'histoire s'étire en longueur, manque sérieusement de punch et de réelles conclusions. Toujours l'incroyable travail d'illustration où Enki Bilal peint chaque vignette indépendamment, c'est-à-dire chacune c'est un tableau, puis fait une maquette et un lettrage sur informatique. On apprécie ou non cette idée de se libérer des contraintes de la planche, ce qui paraît ça fait plus d'originaux à vendre, mais il peut se permettre une narration plus aérée. Et pourtant, c'est une impression assez étrange comme celle vue dans ses films, Tycho Moon ou Immortel Ad Vitam. Les difficultés de production altèrent son scénario en cours de route, où la révolution, où la révolte souhaitée fait place à une mélancolie. Tout n'était pas si beau finalement en Yougoslavie, mais comme la guerre a laissé de très profondes cicatrices, il est inutile de les rouvrir. Ce n'est qu'un devoir de mémoire que Nike a absolu.
Ce qu'il y a de bien, parce que moi je compte le faire offrir, donc c'est pour ça que j'ai pas écouté ta chronique, c'est que dans le premier, donc il expérimentait avec la narration du mec qui reprenait jusqu'à son enfance à rebours, et il a plein d'idées assez rigolotes comme le match de foot, dans, je crois que c'était dans le troisième où.
Match de foot à deux.
Voilà, il y a deux tirs, et le gardien artistique. Doit choisir entre les deux tirs au même moment, c'est assez pas mal.
Hein. Avec une note artistique.
Une note artistique au geste, ouais.
Une parité aussi, ouais. Ça c'est du sport qui serait bien content d'en parler. 4 vient de sortir normalement en librairie depuis un mois déjà par Enki Bilal. Et pas de pub, je suis désolé. Pas pour les auditeurs, hein, je suis désolé pour Harry. On passe à littéralement autre chose, on passe aux comics avec Warren Ellis au scénario et G.H. Williams III au dessin. Desolation Jones, Made in England. C'est dans la collection Wildstorm, en fait c'est le label américain où est sortie cette histoire complète, cette mini-série, et traduite en France, donc dans la collection Wildstorm chez Panini Comics. Michael Jones a sombré dans l'alcoolisme. Bon, c'est une addiction qui n'est pas franchement recommandée dans n'importe quel métier. Surtout quand votre employeur n'est pas n'importe lequel, le MI6. Consterné, les chefs des services secrets britanniques lui ont proposé de participer à une expérience. Desolation. Il fut le premier cobaye à en ressortir vivant. Une année de torture continue, sans aucun repos, qui lui a même fait perdre la peur de la mort. Et en tant que retraité très spécial des services secrets, il est assigné à résidence à Los Angeles, comme d'autres agents anglais et américains qui ont vécu l'indicible. Ah, pourquoi LA ? On paraît que c'est la ville où si tu croises quelqu'un de normal, t'as intérêt à te méfier de lui, voire même carrément à le fuir. Coincé dans cette ville comme dans une prison, Desolation Jones travaille pour la communauté d'anciens barbous tarés qui zonent dans Los Angeles, cachant ses vieux démons, ça et là, à coups de tarpé, et prêt à tout pour tous les coups de taré. Comme ce colonel qui collectionne tous les films de cul qu'il peut trouver, et qui s'est fait dérober une pièce unique, un film de cul dirigé et joué par Adolf Hitler lui-même. Dans quel trou Jones va-t-il fourrer son doigt ? Celui des productions de cul fauchés qui cassent les jeunes filles débarquées du Middle West, ou dans un cercle d'admirateurs du Führer qui se branle à l'idée de créer une Amérique racialement pure ? Oh non, même pas, c'est encore pire. Flippant, trippant, hallucinant ? Mais non, pas du tout pour les enfants. L'auteur Glock et Gore du ministère de l'espace et de la série télé Global Frequency se complaît à imaginer les complots les plus insoutenables. Ça lui plaît à nous mettre mal à l'aise et il adore recruter les dessinateurs qui vont nous faire gerber, en l'occurrence G.H. Williams III. Et le scénario est bien évidemment signé Warren Ellis. Desolation Jones, Made in England, chez Wildstorm Panini Comics. Et il commence à me regarder, commence à essayer de lire le prompteur un peu. GD, My Way, le premier tome vient de sortir aux éditions Tiaopan. Un personnage en haut de forme recourbée, androgyne, à long pull ou une jupe noire, on ne sait pas trop, avec un cœur épinglé dessus. Personne ne pourrait dire qui il ou elle est. Peut-être un ange de l'amour. Car toutes les histoires qu'il et elle traverse sont celles de couples qui s'aiment, mais dont les deux protagonistes ont leur part d'individualisme, d'égocentrisme, de caprice, qui fait que leur histoire ne s'est pas conclue finalement. Le texte, après chaque histoire courte, montre une fin alternative, une autre conclusion. Voilà une bande dessinée sensible, incroyablement touchante, en couleur numérique, avec un graphisme faussement naïf, des personnages aux orbites vides et semblant sans réelle expression. On est touché par chaque histoire, limite renversée par incompréhension qui a fait chavirer leur histoire d'amour. Et on continue à suivre cet étrange personnage dans des lieux non nommés, sans indication de date. Bref, sûrement très proche de chez soi. My Way, c'est une bande dessinée chinoise qui a été traduite par Tiaopan, et l'éditeur français a voulu offrir un chouette bonus au lecteur. Un cadeau assez sympa, deux petits marque-pages. Et là, cette idée n'est pas bonne du tout. Le livre est vendu sous cellophane, donc on n'invite pas le client occasionnel à parcourir ces pages, qui ferait immédiatement chavirer devant ce graphisme onirique. Patrick, t'es gentil, lâche ce flingue. GD, My Way, le premier tome vient de sortir.
Je me suis fait la même remarque après coup, et j'aurais dû faire les marque-pages sur la deuxième édition, sur le My Way 2 ou sur autre chose, mais pas sur le tome 1.
Non, parce que tu peux pas savoir la difficulté que tu as à essayer de lire ce bouquin tranquillement pour faire la chronique le plus vite possible quand t'as la copine qui le voit de loin. Et c'est assez pénible.
Alors par contre, vous sponsorisez des chats ou quoi? Parce qu'il y a beaucoup de questions de chats. Après Benjamin qui en a 3.
J'ai dit, aime bien les chats aussi.
Il y a
Numao. Non, c'est comme ça. Mais c'est vrai que.
Mais tu as quoi chez toi?
C'est vrai que Christine aime bien les chats aussi, ma femme. Donc.
Tu as quoi toi, des chats ou des chiens?
Ni l'un ni l'autre. Alors qu'on a eu des chats, mais pour le moment, il y a rien.
D'accord. Pour l'instant, c'est les auteurs chinois donc.
Pour l'instant, c'est ça. C'est, pour le moment, c'est les auteurs chinois qui en caressent dans le sens du poil, ouais, c'est ça.
My Way, le premier tome donc de GD vient d'être traduit en français chez Tiaopan. May there be peace and love and perfection throughout all creation. May there be peace and love and perfection throughout all creation, O God. h 38, on va vite enchaîner sur le cinéma. Avec un groupe qui s'appelle Kemuri. Vous allez comprendre pourquoi je vais le passer. C'est parce qu'en fait, leur premier album a été dessiné par un dessinateur de manga dont il va être question maintenant. Kemuri, On the Streets, extrait de leur premier album Little Playmate, qui est sorti maintenant il y a une dizaine d'années. We'll be right back. La chronique cinéma vous est présentée en Dolby Mono Surround par Thomas. Bonjour Thomas.
Bonjour. Ouais.
Alors avant de parler d'un petit film qui est sorti en catimini, on va parler d'un gros film qui est sorti partout. Donc Spider-Man 3.
Alors... C'est pas le bon fond, tu m'avais dit qu'on commençait par Amer Béton.
Non, je t'ai dit qu'on commençait par Spider-Man 3, c'est sur ton plan que tu as commencé par Amer Béton.
Ah merde.
Allez, on va commencer par Amer Béton si tu veux, pour laisser le CD. Allez. Bon, alors, il s'agit d'un film d'animation de Michael Arias qui était produit par le studio 4C. Alors, studio 4C, bon, c'est un...
studio japonais, hein.
Studio qui a été fondé par...
Salaud, j'ai pas de mémoire des noms.
Voilà, en plus c'est des noms japonais. Donc c'est défendu par Koji Morimoto. Bon, je pense que ça te dit quelque chose. L'animateur Yoshiharu Sato et la productrice Eiko Tanaka, et qui s'est spécialisée un temps dans les courts métrages et pour par rapport, par exemple, ils ont sorti Memories, Spriggan, ils ont travaillé sur les animations de Steam Boy en collaboration avec le studio IG, et ils ont travaillé sur 5 animatrix. Donc déjà ils ont fait pas mal de truc pas mal, et on avait vu Kamikaze Girls, je sais pas si tu l'avais vu. Oui, tu casses tout le décor.
Non,
et
j'avais
ils
pas
avaient
prévu.
Travaillé oh, sur, sur une séquence d'animation dans le film Kamikaze Girls. Et donc c'est un film réalisé par Michael Arias qui a fait ses armes en travaillant avec certains réalisateurs américains comme Wes Craven ou James Cameron, et qui vit à Tokyo depuis 10 ans pour développer des logiciels des logiciels d'infographie et d'effets spéciaux, qui a beaucoup apporté en technologie digitale pour le studio 4C. Et il prend justement les rênes du film d'animation Amer Béton, l'adaptation de la manga de Taiyo Matsumoto. Alors ça raconte quoi ? Les gamins noirs et blancs, alors ils ont traduit noir et blanc alors que c'est négro et blanco dans le... Ça fait un peu bizarre au début, mais après on s'adapte. Surnommés les chats, règnent sur les vieux quartiers de la ville de Treasure Town. Noir est violent et indépendant alors que blanc est lunaire et a besoin de son frère. Le retour du Yakuza, le rat, accompagné de son lieutenant Kimura, va déséquilibrer un petit peu le contrôle du quartier, alors que parallèlement, un promoteur veut raser le quartier pour créer un parc d'attractions et mandate encore un autre tueur encore plus redoutable avec ses trois sbires qui vont essayer d'exterminer les deux gamins. Alors ce qui frappe, c'est super fidèle à la BD. Mais ils ont repris de A à Z tout ce qu'il y avait dedans, et ils ont pas fait de raccourci. C'est-à-dire que les personnages, ils gardent leur essence, ils sont aussi charismatiques que dans la BD, c'est la même chose. Et moi qui avais lu la BD il y a assez longtemps, franchement, c'est la claque aussi dans le film d'animation. Il faut savoir aussi que c'est que Michael Arias, comme il a travaillé dans le développement de logiciels 3D d'infographie, on aurait pu craindre que ce soit un déluge d'effets spéciaux. Et en fait, pas du tout. Il a vraiment gardé l'esprit des deux gamins. Tu t'attendris, c'est un rendu un peu lissé. Et, c'est très proche du trait de Matsumoto qui faisait un peu penser à du trait continu un peu.
Il a beaucoup pensé aussi à pas mal d'auteurs comme Nicolas de Crécy aussi,
oui.
Très très proche. Quand il était venu à Angoulême en 97, c'était la chose sur il n'avait pas le temps, et c'était vraiment la personne pour qui il était prêt à faire une queue pour avoir une dédicace. De Crécy s'en est foutu.
Alors sans trop spoiler, puisqu'il y a quand même une séquence avec le Minotaur. Alors pour ceux qui ont lu la BD, c'est Nyoturi, la transcription en animation. Ils sont vraiment fait plaisir au niveau expérimental. Ils ont essayé de retrouver le rendu de peinture de Francis Bacon. Et c'est, on prend sa claque, on se dit mais ça clôt le film alors qu'il n'y a rien de laisser supposer une technique comme ça à la fin. Et on se croirait vraiment dans un film expérimental, et ça fonctionne trop bien, et le film est vraiment une énorme réussite. Et il y a un petit moment de flottement avant le final dantesque, mais c'est vraiment du très bon. Donc c'est le film Amer Béton, produit par le studio 4C et réalisé par Michael Arias.
Et à noter donc que la bande dessinée avait été traduite. Alors l'édition japonaise, elle a eu un énorme succès en 95, c'était vendu à plus de 300 000 exemplaires. Et elle a été éditée en France en 96 par Tonkam, un pavé, mais vraiment un beau bouquin, hein, une reliure en forme de pavé, trois bouquins indépendants. Et ça s'est vendu difficilement à 4000 exemplaires. Quand je dis difficilement, c'est qu'à la fin, ils ont carrément donné, parce qu'ils savaient plus quoi en faire. Et ça vient d'être édité pour la sortie du film en un seul tome. Un bouquin assez épais, mais je trouve qu'on y manque justement ce côté assez underground, le pavé qu'on se prenait dans la gueule avec l'album Amer Béton. À noter aussi que les personnages qu'on retrouve, et que c'était Kuro et Shiro, les deux chats. Le Yakuza, le promoteur et tout ça, on les retrouve dans différents albums qu'il a fait par la suite, comme par en, je m'y retrouve plus.
Ah, c'est trop petit, on te le disait tout à l'heure.
Je vais non, voilà, je m'y retrouve plus. Il a fait aussi des mangas autour du sport, sur le baseball, Straight, Ana Otoko, la boxe, Zero. Et aussi, il a été journaliste autour, journaliste bande dessinée, autour du Paris-Dakar. Et c'est là où, justement, il avait découvert la scène française de bande dessinée et des indépendants. Tu cherches où, là?
Je pensais que tu l'avais passé dans le plan de l'émission. Ah, t'as un truc spécial, d'accord. Voilà, ah, voilà. T'avais imprimé le dossier de presse.
Oui, c'est ça, oui, le dossier de presse. Regarde l'URL et tu verras que c'est un papier que j'ai écrit il y a 10 ans, ça.
D'accord.
Mon cher ami, non mais, de baffe dans la gueule. Ah. Bon, mais bon, d'accord. Ok. Si tu
ben on va passer au super-héros là.
Tu veux dire le machin qui ressemble. Avec le trailer qui ressemble vaguement au Seigneur des Anneaux. Oui, il y a une séquence où tu le vois. Ah, et t'as l'anneau.
Ah, oui, avec l'anneau, oui. Bah, c'était sa bague de fiançailles car il voulait se marier avec Mary Jane, le pauvre. Et ça va pas aller comme il le pensait. Donc Spider-Man 3, c'est un film de Sam Raimi avec Tobey Maguire, Kirsten Dunst, James Franco. Bon, de toute façon, vous êtes au courant. Bryce Dallas Howard qui fait son apparition. Il y a pas mal de rôles secondaires aussi. Il y a James Cromwell qui joue dedans aussi, qui a deux trois répliques dedans. Enfin bon, il y a tellement de personnages qu'il y a pas trop de place pour que chacun fasse la sienne. Alors, tout va pour le mieux dans la vie de Peter Parker. Il n'a plus à cacher sa double identité à Mary Jane, qui a compris que c'était Spider-Man à la fin du 2. Il se rend disponible pour elle, il est aimé par tout le monde. Bon, voilà, c'est la belle vie. Mais l'arrivée de trois vilains va tout bouleverser. Il y a un symbiote extraterrestre qui va parasiter son costume, qui va le pousser.
Non, mais là, tu vas trop vite, là, tu racontes tout. On l'a attendu 2 ans quand on a lu la BD à l'époque.
Ah, l'apparition de Venom. Voilà, donc il devient agressif, il y a le véritable assassin de son oncle qui est devenu l'homme de sable qui va faire son entrée également, et son vieil ami Harry Osborn qui va reprendre les rênes de l'armure du bouffon vert. Donc je vais pas vous cacher que c'était un peu décevant ce film, surtout par rapport aux deux qui étaient vraiment énormes. Et Docteur Octopus c'était vraiment une présence, et puis le choix du casting Monsieur Molina qui était un peu ventripotent, tu t'attends pas du tout à ce qu'il soit le méchant dans ce type de rôle, et là franchement l'homme de sable, alors là il est réduit au strict minimum, et on sent vraiment, quand on avait vu les interviews de l'équipe justement de Sam Raimi justement, ça a été destiné au dernier moment d'avoir autant de méchants. Et lui, on voit vraiment qu'il s'est vraiment concentré sur la partie Peter Parker et pas du tout sur Spider-Man. Et c'est Avi Arad, le producteur, l'ex-PDG de Marvel, qui l'a poussé à inclure.
Allez,
vas-y. Voilà, ouais, faut mettre Venom parce qu'il y aura peut-être pas de 4, alors voilà. Et là, tu sens vraiment que c'est destiné à vendre des jouets. C'est un peu le syndrome Batman 4, enfin Batman et Robin là, c'est t'as ouais plein de méchants partout, et puis
avec des jouets fluo, même couleur que les autocollants, voilà, qu'on va poser.
Et puis Harry Osborn il va se déguiser en bouffon vert lui aussi, mais différent du premier bouffon vert pour faire deux jouets à la place d'un. Donc bon voilà, c'est en plus il y a des parties pris qui sont assez radicaux. Bon c'est assez rigolo parce que il y a une grosse partie qui est tournée en comédie. Il y a toujours dans le 1 et dans le 2 Peter Parker à un moment donné qui se met à chantonner un petit peu avec une musique assez forte derrière de un peu dansante parce que tout va bien pour dans le meilleur des mondes et tout. Et là c'est vraiment à son paroxysme parce que quand il commence à changer de personnalité, ouais, il danse dans la rue et tout.
Il chante des trucs comme ça.
Spider-Man does
whatever a spider can. Non. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Ouais, sous la douche peut-être.
Oui. Alors, par contre, ouais, ils en font des tonnes. Et là où ça frôlait, ça allait pas directement dans les plans ridicules comme dans le 1. Il y a juste une pauvre séquence à la fin avec le drapeau américain. Bon, je me suis dit, bon, allez, poste en septembre, bon, ça, ça fait un peu chier, mais bon, allez, allez-y. Et là, par contre, la séquence hein, qui rappelle la scène du premier film, elle est vraiment... Il y a tout le monde... Franchement, dans la salle, tout le monde s'est pris la tête à deux mains, dit, non, c'est pas vrai. Alors, il y a Spider-Man qui arrive pour sauver la nana.
Dire que tout le monde applaudissait à la fin de Independence Day. Ouais, le président des États-Unis a sauvé le monde. Là, tout le monde est consterné. C'est hallucinant. Ah, non,
c'est la consternation parce qu'il arrive pour sauver la nana. Il y a tout le monde, tous les New Yorkais qui sont sortis, qui étaient sortis dans la rue pour dire, oh là là, elle va charcler sévère la Mary Jane. Et là, tout le monde se retourne. Il y a Spider-Man qui arrive. Ouais, alors ils applaudissent tous en même temps. Et là, il y a ralenti Spider-Man devant le drapeau américain. Alors là, voilà. En plus, bon, j'ai eu le malheur d'y aller avec des collègues qui n'avaient pas aimé les deux premiers. Donc, il fallait voir la chorégraphie à côté qui dit bah, c'est nul et tout. Paris sont du bouffon vert, mais c'est nul, etc. Bon,
et fan de la fan du comics d'ailleurs.
Ouais, peut-être.
Je crois qu'il y en a qui
C'est pas grave. Bon, à part le passage, certains passages de comédie qui font vraiment, qui témoignent vraiment du parti pris de Sam Raimi, puisqu'on sentait dès le début que lui, ce qui l'intéressait, c'était développer le côté Peter Parker qui sort de l'adolescence, qui est un peu tourmenté par rapport à Mary Jane. Est-ce qu'il a le droit de lui l'identité? Est-ce qu'il doit la protéger, etc. Il y a Harry Osborn, franchement, qui est le meilleur rôle du film, puisque, suite à un concours de circonstances, il va redevenir gentil, en même temps il va oublier que Peter Parker a tué son père, etc. Et on va avoir un parallélisme entre les deux, où Peter Parker devient plus agressif sous l'effet du symbiote, et il devient ce qu'Harry Osborn était dans les deux premiers. Et Harry devient un peu ce qu'aurait dû être Peter Parker, c'est ça qui est le plus intéressant. Après, il y a tellement de méchants que
Ça me rappelle un autre 3, Superman.
Ah non, je l'ai pas vu.
Ah dommage.
Et après, bon, il y a les bastons, donc il y a tellement de méchants que... Ça aurait pu être intéressant. Les effets sont bon, on va pas dire que les effets spéciaux sont terribles parce que bon, de toute façon c'est normal, mais on voit vraiment qu'ils s'en prennent, ils se prennent des beignes. Mais t'as mal pour le Spider-Man, tu sais que c'est en numérique, mais c'est vraiment assez bien foutu. Et par contre, il y a tellement de méchants que l'affrontement entre Venom et Spider-Man, ça aurait pu être voilà, ils ont les mêmes capacités les deux, ça aurait pu être un combat en miroir, je sais pas. Non, mais c'est expédié, c'est ah oui merde, il nous reste plus de 10 minutes. Bon, voilà, donc c'est la grosse déception. Par contre, voilà, avec personnage inconsistant, bon, il faut y aller quand même pour voir une grosse comédie. Hein.
Ouais, et voilà. Est-ce qu'on voit Stan Lee?
Oui. Ah. Et il parle.
Parce que les autres, ils parlaient pas.
Voilà, là, il parle, il dit une espèce de phrase sur le sens de la vie à Peter Parker. Voilà.
Tu sais que Stan Lee il est passé dans l'adaptation américaine d'un jeu télévisé français qui s'appelle Qui est qui, où ils le font avec moitié des célébrités, moitié des gens pas connus. Et donc, je suis le créateur de Spider-Man.
Vrai ou faux?
Non, mais il y a tout le monde qui lui a attribué le rôle de, je crois, du cowboy texan ou un truc comme ça.
Mais ils connaissent pas Stan Lee, c'était quoi le public?
C'était le public américain.
Bon, allez, Spider-Man 3, toujours Sam Raimi aux commandes, on sait pas sur un 4, en tout cas...
Il file un mauvais coton.
Voilà.
C'était consternant, je m'en doutais un peu. Stéphane, Patrick, on se retrouve tout à l'heure.
Ouais,
tu as peut-être quelque chose à dire, oui. Non, sur ce qui a été dit, sur les massacres.
Ouais,
Sébastien, pardon. Oups, excuse-moi.
Il avait quelque chose à dire d'important,
voilà.
Quand même.
Et sinon. Sinon. Même si apparemment le film n'est pas totalement convaincant, au niveau du box-office, ça rentre très très bien.
Donc, ah bah ouais.
Avec ça.
Si on se fixe là-dessus, il y aura certainement 1-4.
Peut-être pas avec le même casting et la même équipe aux commandes, mais...
On ne désespère pas, hein.
Sachant que James Cameron avait failli réaliser le premier, on peut espérer pas mal de trucs.
Il est trop occupé à faire Gunham.
Ça fait 5 ans qu'on entend parler, mais...
En plus, même.
Ouais, parce qu'il me semble que le premier post là-dessus date de 99. Hein. Donc il est bien occupé à le préparer. Hein.
Ça va être énorme.
Et puis c'est le principe à Los Angeles,
oui,
Hollywood.
Sauf que maintenant,
ouais,
Jessica Alba l'a vieilli et puis elle peut plus interpréter Gunn, alors il faut qu'il trouve quelqu'un d'autre.
Gunn n'est pas très grande, Alita. Hein. Gali, pardon, excuse-moi, je confonds les versions.
Alita, c'est en
américain. Ouais, c'est en américain.
Ouais.
C'est le supplément week-end. On a rarement fini aussitôt. 12h57 minutes et 40 secondes sur la poubelle des radios. Thomas, peux-tu faire le résumé pour ceux qui ont pris l'émission en cours de route?
Ah bah c'était du serré, il n'y a pas grand chose à noter à part la présence de nos deux invités Patrick Abry et Sébastien Langevin. Il y a eu une sorte de petite introduction au débat qui aura lieu quand même à la médiathèque tout à l'heure. Et tu as encore prouvé que tu pouvais faire des jeux de mots pourris autour de Spider-Man.
Nom d'une croisière Bolloré, ils ont manqué tout ça. Heureusement, ils peuvent réécouter l'intégralité de cette émission avec les chroniques écrites, mais aussi vos commentaires. Alors n'hésitez pas, vous allez sur le site internet de la radio, www.radio-fmr.net, ou sinon on mettra un peu partout des flyers. Tout à l'heure, il y en aura à la médiathèque à 15h, donc on vous attend à partir de 15h. C'est gratuit, il y a suffisamment de capacité normalement pour accueillir tous nos auditeurs, qui sont au nombre de 2. Et beaucoup plus quand même sur le podcast, je ne sais pas, on n'a pas de chiffres de toute façon. Voilà, et donc la suite des programmes sur Radio FMR, pas du sport aujourd'hui, mais à 15h du reggae avec Zarma Farai, avec Poupa Christopher derrière les platines, suivi de Big Bang, 18h vie d'ordure c'est du punk, 19h happy hour, 20h la Cetero Experience, 21h30 9 love, vous écoutez FMR sur 89,1 MHz, nous sommes en direct jusqu'à 5h du matin. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine à partir de midi. Pas de spécial normalement prévu, mais en tout cas des sorties à gogo et plein de choses.
Et voilà, comme d'habitude.
Voilà.
Avec de la baston, de l'actualité cultureuse.
Ouais, à peu près, à peu près. Sébastien, merci. Patrick, merci. On remballe tout, on va manger, on vous laisse. Nous, on va déjeuner en terrasse, il fait beau et n'hésitez pas. Vous pouvez y aller avec les écouteurs sur les oreilles sur 89 points. A plus.